Excellent réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Donald Trump inflige de nouvelles sanctions aux dirigeants iraniens. Il vise notamment et symboliquement l'ayatollah Khamenei. Nous tenterons de savoir si ces sanctions à répétition empêchent effectivement Téhéran de développer son programme nucléaire.
La première phase du plan de paix américain pour le Proche-Orient est lancée aujourd'hui. Il s'agit du volet économique avec 50 milliards de dollars sur 10 ans pour les Palestiniens. Vous comprendrez pourquoi la plupart des pays arabes boycottent ce plan.
Dans ce journal encore, nous entendrons une militante pour le climat nous parler du projet de loi énergie-climat qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La question des logements mal isolés en France est la plus sensible.
Et puis zoom sur trois tableaux qui auraient été volés à un collectionneur juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa famille attaque l'État français pour les récupérer.
Les écologistes sont-ils devenus arrogants depuis leur succès aux européennes? Voici la question posée par Frédéric Saïs dans son billet politique. Ce sera après ce journal. Revoilà donc les sanctions contre l'Iran. Sanctions économiques renforcées hier par les États-Unis sur demande de leur président Donald Trump. Sont visés le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ainsi que plusieurs hauts gradés des gardiens de la Révolution, des dignitaires iraniens qui en réalité ont très peu d'actifs à l'étranger. L'effet sera donc plus symbolique qu'effectif, mais l'étranglement économique de l'Iran par les États-Unis se poursuit et il semble donner des résultats, Christian Chesneau.
Faute de frappe militaire, les États-Unis continuent leur pression maximale sur l'Iran. L'objectif de la Maison-Blanche est de mettre à genoux l'économie de la République islamique pour forcer ses dirigeants à négocier un nouvel accord, mais aux conditions de Washington. Et pour Brian Hook, chargé du dossier iranien au département d'État, cette stratégie d'étouffement commence à porter ses fruits.
En mars dernier, l'Iran a voté son budget 2019 et il y a une baisse de 29% des dépenses militaires. Avec la mise en place de nos sanctions, nous avons pu constater des coupes financières qui concernaient aussi les gardiens de la Révolution.
Cette asphyxie financière vise aussi à couper les ailes de l'Iran dans la région, Téhéran étant accusé d'ingérence par ses voisins arabes. Et là encore, les sanctions donnent des résultats, selon Brian Hook.
L'Iran n'a plus autant d'argent pour financer le Hezbollah, le Hamas, le djihad palestinien, les milices chiites en Irak, en Syrie, les Houthis au Yémen. Ça ne veut pas dire que nous avons éliminé la capacité de l'Iran à mener une attaque asymétrique, mais nous savons que les alliés locaux de l'Iran souffrent en ce moment.
Reste que cette stratégie a aussi ses risques, notamment celui de radicaliser l'Iran en favorisant les durs du régime au détriment des modérés.
L'Iran qui réagit ce matin à ces nouvelles sanctions. Washington ferme de façon permanente la voie de la diplomatie. Voilà ce que dit le porte-parole de la diplomatie iranienne. Et quand Donald Trump sanctionne économiquement d'un côté, il s'imagine grand seigneur de l'autre, distribuant les dollars par milliards. À Bahreïn ce mardi sera présenté le volet financier du plan américain pour la paix au Proche-Orient. Il vise 50 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans pour les Palestiniens. Sauf que les Palestiniens, justement, et l'opinion publique arabe plus généralement, rejettent en bloc ce plan, Aurélien Colli.
Une perte de temps, un projet voué à l'échec, un plan mort-né, une basse tentative d'acheter la cause palestinienne. Dans la presse arabe, analystes et commentateurs critiquent sans détour ce que l'administration Trump annonçait comme le deal du siècle, mais qui prend déjà des allures de fiasco. À Bahreïn ne sera présenté que le volet économique de ce plan, lever 50 milliards de dollars, investis pendant 10 ans pour stimuler l'économie des territoires palestiniens et obtenir, selon le slogan du sommet, la paix par la prospérité. La moitié de la somme irait aussi à des projets en Égypte, en Jordanie et au Liban, qui hébergent près de 5 millions de réfugiés palestiniens. Mais pour les pays arabes, la contrepartie de ce développement est connue d'avance, même si le volet politique du plan américain ne sera dévoilé qu'à l'automne. Aux oubliettes, la solution des deux États et le droit au retour des réfugiés. En résumé, beaucoup d'argent contre l'abandon des droits historiques des Palestiniens et l'assimilation des réfugiés dans leur pays d'exil. L'argent et l'économie sont importants, mais la politique l'est plus encore, a rappelé Mahmoud Abbas, président d'une autorité palestinienne qui boycotte ce sommet, comme le Liban et l'Irak. La Jordanie et l'Égypte, seuls pays arabes à avoir fait la paix avec Israël, iront, mais à reculons, trop dépendantes des aides financières américaines, mais aussi de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, les deux monarchies qui soutiennent le sommet de Manama et semblent prêtes, elles, à s'aligner sur la politique américaine, quitte à sacrifier la cause palestinienne au nom de la lutte contre un ennemi commun à Washington et Tel Aviv, leur grand rival chiite, l'Iran.
Alors, quels besoins économiques pour les Palestiniens? C'était l'objet d'un reportage de la rédaction ce mardi matin, tourné notamment dans une entreprise palestinienne. Il est disponible en réécoute sur franceculture.fr. C'est un retour symbolique. La Russie peut réintégrer le Conseil de l'Europe. Elle en était écartée depuis 5 ans et l'annexion de la Crimée. Les débats lors de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ont duré des heures hier entre les partisans de la fermeté, notamment l'Ukraine, et ceux du dialogue avec Moscou. 118 parlementaires des États membres ont finalement voté pour la réintégration de la Russie, 62 contre, 10 se sont abstenus. Le Royaume-Uni, lui, quittera l'Union européenne au plus tard le 31 octobre, avec ou sans accord. Boris Johnson l'a promis hier dans une interview à la BBC. Le favori pour succéder à Theresa May à la tête du Parti conservateur et donc du pays dit vouloir préparer la Grande-Bretagne avec confiance et sérieux. Cet ancien maire de Londres, partisan d'un Brexit dur, a tout de même reconnu hier avoir besoin de la coopération de l'Union européenne pour pouvoir amortir les chocs en cas de sortie sans accord. Voici maintenant une tribune publiée ce mardi dans le quotidien Le Monde. Des juristes de différents pays y défendent l'ancien président brésilien Lula. Il est emprisonné depuis plus d'un an, doit y passer 8 ans et 10 mois selon la peine prononcée pour corruption et blanchiment d'argent. Or, le site d'investigation The Intercept dévoilait la semaine dernière qu'un ministre de l'actuel gouvernement d'extrême droite était impliqué dans l'emprisonnement de Lula, que le jugement n'avait pas été impartial. Les signataires de la tribune aujourd'hui demandent donc à la Cour suprême au Brésil de libérer Lula. Parmi ces signataires, il y a l'avocat français Jean-Pierre Mignard.
Nous pressentions qu'une sorte de coup d'État sous les habits de la justice, de la loi, était en préparation contre le président Lula afin de le neutraliser, l'empêcher de se présenter aux élections et ainsi de faire triompher M. Bolsonaro. Alors cette violation constante des procédures a été dévoilée par le journaliste Glenn Greenwald et toute son équipe qui ont révélé ce qui a pu se passer par une enquête exceptionnelle d'ailleurs, montrant que l'instruction et jugement contre le président Lula avaient été dès l'origine biaisés, les procédures malmenées. En fait, le juge était le véritable accusateur, orientait la délation. Dans ces conditions, nous avons considéré que Lula était devenu dorénavant un prisonnier politique. Se battre pour Lula, c'est se battre pour lui, car il est victime d'une injustice. C'est se battre pour le peuple brésilien, mais c'est aussi se battre pour nous.
La Cour suprême brésilienne devait se prononcer sur une demande de libération de Lula aujourd'hui. Audience qui a été reportée sine die, sans explication ce matin. Près de 15 000 policiers et militaires mexicains sont déployés à la frontière américano-mexicaine. Cela s'inscrit dans l'accord qui a été conclu avec Washington pour freiner l'immigration illégale.
8h07 sur France Culture. La suite du journal de Clara Lecoq-Réal en plein épisode de canicule. L'Assemblée nationale se penche sur la loi énergie. Climat.
Oui, le texte évoque notamment la neutralité carbone en France en 2050, une trajectoire de baisse de la part du nucléaire de 70 à 50% en 2035 et non plus 2025. La chasse également aux logements mal isolés qui sont appelés les passoires énergétiques. Si un état d'urgence écologique et climatique figure bien dans l'article 1 de ce projet de loi, les associations et certains élus de l'opposition dénoncent déjà un texte peu ambitieux. Anne Bringot notamment. Elle est responsable de transition énergétique au sein du réseau Action Climat.
Sur ce projet de loi sur l'énergie et le climat, je pense qu'il faut se focaliser sur la question du bâtiment. Le bâtiment, c'est un secteur où on émet à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, c'est le secteur où on consomme le plus d'énergie. Et par ailleurs, c'est un secteur où on a aussi des passoires énergétiques. Donc, c'est logement avec une étiquette énergie F ou G, où on a finalement des habitants qui ont des factures énergie qui explosent ou qui peuvent simplement se chauffer l'hiver parce que les factures sont trop chères, et l'été qui souffre encore plus de la chaleur en cas de canicule. Donc maintenant, il faut engager la rénovation de ces passoires énergétiques. C'est un enjeu écologique et c'est un enjeu social très fort.
Et notons qu'il existe en France actuellement plus de 7 millions de logements mal isolés. Anne Bringot du réseau Action Climat était interrogée par Stanislas Vazak. Ces bâtiments mal isolés évoqués à l'instant surchauffent en ce moment, certains collèges notamment. Et c'est pour préserver la sécurité des élèves en pleine canicule que le ministère de l'Éducation nationale a décidé de reporter le brevet des collèges de quelques jours. En France métropolitaine, les élèves de 3e passeront donc leur examen lundi et mardi prochain. Il était initialement prévu jeudi et vendredi. Et malgré les éventuels soucis de planning pour les familles, la FCPE, première fédération des parents d'élèves en France, se dit rassurée par cette annonce. Son vice-président Jean-Jacques Renard.
Il n'y a pas de bonne solution. Cependant, il me semble que celle qu'a prise le ministre est la plus courageuse parce que ça va entraîner beaucoup de perturbations dans la tenue des épreuves, dans la correction. Et puis aussi, surtout à Paris, les élèves reçoivent leur affectation à l'issue de la dernière épreuve et ensuite doivent s'inscrire dans les lycées. Donc tout cela va être décalé un peu dans la précipitation. Mais cependant, il me semble essentiel que les collégiens passent leur diplôme du brevet dans les meilleures conditions. Il y avait quand même des risques de coupure de courant. Il y a quand même les alarmes incendies, il y a plein de choses qui risquent de ne plus fonctionner et donc la sécurité des élèves ne serait plus assurée. Beaucoup de parents étaient venus nous voir pour nous faire part de leur inquiétude et je pense que cette annonce est de nature à lever la plupart des interrogations, même si elle crée d'autres perturbations collatérales.
Les épreuves du brevet sont donc reportées pour 700 000 élèves alors que l'on annonce près de 40 degrés par endroit en milieu de semaine en France métropolitaine. Météo complète à la fin de ce journal. Mais déjà, qui dit pic de chaleur dit pollution à cause du trafic automobile notamment. Paris demande une circulation différenciée pour demain et n'aura bientôt plus à le faire. Ces restrictions seront automatiques en cas de pic de pollution. L'annonce doit être faite dans la matinée. La France ne peut pas réussir si Marseille ne réussit pas. C'est par cette phrase, entre autres, qu'Emmanuel Macron a débuté hier une opération de charme dans la deuxième ville de France, à 9 mois, soulignons-le, des élections municipales. Élections pour lesquelles La République En Marche a de grandes ambitions. Le parti de la majorité qui pourrait exclure l'une de ses membres aujourd'hui, Agnès Thil, est une énième fois convoquée devant la commission des conflits de La République En Marche. La députée de l'Oise multiplie les avertissements et les provocations, notamment sur la PMA pour toutes. Elle commence, Rosalie Lafarge, à déranger sérieusement.
Les provocations à répétition d'Agnès Thil avaient déjà bien du mal à passer auprès de ses collègues. Mais alors que le texte sur la PMA doit être présenté en Conseil des ministres le mois prochain et soumis au Parlement fin septembre, le prétendu lobby LGBT du Palais Bourbon, les femmes seules ayant recours à la PMA comparées à des drogués ou l'éclosion d'écoles coraniques à cause de l'absence de genre dans le mot « parent », ça ne passe plus du tout. Par ses propos, explique le patron des marcheurs, Stanislas Guérini, Agnès Thil ne permet pas un débat apaisé sur la PMA.
C'est pas moi qui ne favorise pas l'apaisement.
L'ancienne militante du PS revendique d'être une voix dissonante de la majorité.
Cette loi passera. Mes collègues sont 300. Toutes les lois passent. Mais je me bats même pas pour ça. Je veux pouvoir dire ce que beaucoup de Français pensent et je dois pouvoir le dire. On ne peut pas donner une liberté de vote et interdire d'en exposer les raisons.
Et ces raisons, Agnès Thil ne se prive pas de les exposer dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Chacun de tes tweets t'éloigne de ce que nous sommes, lui a d'ailleurs déjà répondu le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Mais ce sont surtout ses collègues députés qui dénoncent ces dérapages incontrôlés.
Mais il n'y a pas de dérapage. Ils disent « elle a récidivé, elle a dérapé ». Non, je parle du sujet. Mais je fais 10 fois attention. Je relis tout ce que j'écris. Simplement, je ne peux rien dire sur ce sujet. Ah, on veut bien que j'ai mes propres opinions, mais il faut que je me taise.
Certains menacent de quitter LREM si Agnès Thil n'en est pas exclue tout à l'heure. Tout en reconnaissant des maladresses, la députée dénonce un chantage abject, d'autant plus décevant qu'il vient des siens, d'un parti qui prône, dit-elle, la tolérance, la bienveillance et le respect de la parole de l'autre.
Un patrimoine spolié entre recherche et provenance de restitution. C'est un article que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr et qui nous intéresse aujourd'hui puisque une audience se tient à Paris. Les descendants d'un collectionneur d'art, René Guimpel, attaquent l'État pour récupérer ses tableaux qui sont aujourd'hui exposés dans des musées à Marseille et à Troyes. Ces tableaux d'André Derain ont été spoliés sous l'occupation selon la famille de René Guimpel. Et Maxime Fayol, ce matin, nous en retrace l'histoire.
Pour savoir si ces œuvres devront être restituées à la famille de René Guimpel, il faut tenter de retracer leur parcours depuis l'acquisition par le collectionneur à Cannes en 1921. Et même si ce parcours est sinueux, la petite fille de René Guimpel, Claire Guimpel, a pu les suivre grâce aux investigations menées avec un chercheur anglais.
C'est très clair. Ce sont des tableaux qui ont voyagé entre New York, Londres et Paris. Ils sont revenus en France. On a les papiers, comme quoi en 1939, ils étaient là. On a le cahier de visite de la galerie qui montre qu'en décembre 39, mon grand-père montre les tableaux avec Rose Adler à quelqu'un. Donc on a toutes les preuves pour dire que ces tableaux sont en France en 1939.
L'avocate du musée de Troyes qui détient deux de ses œuvres conteste plusieurs éléments. Pour maître Béatrice Cohen, il ne s'agit pas nécessairement des tableaux affichés dans le musée.
On n'est pas du tout sûr qu'on parle bien des mêmes tableaux, surtout qu'il y a des doutes également par rapport aux signatures présentes sur le tableau. Il y a des doutes par rapport aux mesures des tableaux. Donc en l'état, on émet énormément de doutes.
Pour Claire Guimpel, ces doutes vont jusqu'à remettre en cause la spoliation même de son aïeul.
Il faut qu'ils arrêtent de nier l'évidence que des ventes forcées, il y en a eu. Les Français ne font pas le boulot que les Américains font, que les Anglais font, que les Allemands font, qui consiste à refaire les provenances de toutes les acquisitions entre 1933 et 1945. Je suis exaspérée.
D'autant plus que l'affaire dure depuis déjà 6 ans avec le ministère de la Culture et pourrait encore durer, quelle que soit l'issue de l'audience ce matin.
Et pour aller plus loin sur ces patrimoines spoliés, donc, 3 conférences de France Culture ont été diffusées le mois dernier et sont à retrouver sur franceculture.fr. Chose promise, chose due, voici la météo de ce mardi. Si le temps sera encore instable sur le nord-ouest, il restera sec et très chaud ailleurs. 53 départements sont en vigilance orange canicule aujourd'hui, de la Dordogne jusqu'au Bas-Rhin, en passant par les départements d'Île-de-France et la Drôme. Il fait déjà ce matin 25 degrés à Périgueux, 27 à Paris, 28 à Besançon, 30 degrés à Lyon, 32 à Marseille et puis jusqu'à 38 degrés cet après-midi. En revanche, ce matin, comptez 18 degrés à Brest, 23 à Bayonne sous un grand soleil.
Donc vous le confirmez, Clara Le Coquerel, il va faire chaud.